La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Qui descend sur le bord de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité.
Bonjour à tous. Alors, c'est un honneur pour moi de prêcher la bonne nouvelle aujourd'hui devant vous. Ce matin, nous allons traiter du sujet de l'unité. Dieu nous a placés les uns à côté des autres, chacun ayant son propre rôle pour le bien de tous. Ce matin, je ne vous apprends rien en disant que chaque membre d'église ici est unique. Pour son âme, ses talents, les traits de son visage, sa culture, ainsi que sa couleur. Mais aux yeux de Dieu, malgré nos différences, nous avons la même valeur. Que nous ayons un poste en tant que président ou responsable d'un département, peu importe, pour Dieu, nous sommes la même personne. Et nous avons besoin les uns des autres. Je vous invite à prendre avec moi Acte 13, versets 1 à 3. Acte 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysus de Cyrène, Manaan, qui avait été élevé par Hérode de Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, ils les laissèrent partir. L'église d'Antioche, où Barnabas et Saul évoluèrent, était une communauté comme celle de Damarie, c'est-à-dire hétérogène. Il y avait des Malgaches, des Portugais, des Italiens, des Polonais, des Haïtiens, et sans oublier, bien évidemment, la Guadeloupe et la Martinique. Barnabas, le pasteur bienveillant, originaire de Chypre. Saul de Tarse, le défricheur, d'origine hébraïque. Lysus, d'origine d'Afrique du Nord. Et que dire de Manaan, élevé par Hérode. Et Siméon, ben il était noir. Quel que soit le lieu où un réveil prend place, il n'y a plus de frontières d'âge et d'origine. Nous allons à présent prendre 1 Corinthiens 12, versets 14 à 21. 1 Corinthiens 12, versets 14 à 21. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas un corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas un corps », ne serait-elle pas un corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Un seul corps, plusieurs membres. Le même but et l'objectif, l'unité de ce corps. C'est pourquoi nous devons apprendre à accepter les particularités de l'autre. Dieu se réserve le droit d'employer des hommes et des femmes, des jeunes et ceux qui ne sont pas d'accord avec vous et moi. Nous allons prendre maintenant Galates 5, verset 22, qui dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » En tant que chrétiens, nous devrions être, comment dirais-je, une salade de fruits. Le chrétien doit combiner tout ça. Et, comment puis-je dire aussi, nous devons influencer le groupe et ce n'est pas le groupe qui doit nous influencer. Ensuite, nous prendrons Galates 5, versets 19 à 21. Galates 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Tout ce qui a été dit, ce sont les attitudes que le chrétien doit éviter. Concernant les sept fruits de l'esprit tout à l'heure, par rapport à la salade de fruits, comme dirait Bourville, salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. De la même façon que du point de vue religieux et spirituel, nous devrions dire salade de fruits, joli, 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 que tu plaises à Dieu. Si nous revenons dans 1 Corinthiens 12, le verset 18 nous rappelle que c'est lui qui a placé chacun d'entre nous dans ce corps. Comme il l'a voulu, alors quelle doit être ma réflexion ce matin? Je la joue perso ou je me colle à ce corps? Ce sabbat, j'aimerais que nous faisions de nos différences une force. Une force pour agir pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous connaissez des slogans parlant de l'unité? Donnez-moi des exemples. L'union fait la force, très bien, mais encore. Un pour tous, tous pour un. Il y a aussi cette citation beaucoup plus philosophique. Le bonheur qui habite aussi bien dans les chaumières que les palais prend sa source dans l'union des familles. Citation de Maria Edgeworth. Ensuite, d'autres suggestions? Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. À bien y réfléchir, quand nous considérons Barnabas et Saul, on ne peut qu'être ébloui par une telle complémentarité. Barnabas, le pasteur bienveillant. Saul, qui est décrit comme un bulldozer, ou aussi le défricheur. Qui que nous soyons, sommes-nous prêts à relever ce défi? Alors ce matin, qui veut être complémentaire avec moi? Levez la main. Amen. À tous ceux qui ont levé la main, mais aussi pour les timides, pour ceux qui doutent de la réalité de l'amour de Dieu dans ce corps, ici à Damari, chantons comme une signature à notre engagement le chant qui va suivre.
Voilà un fruit nouveau à protéger, pour lequel il faut entourer avec soin, beaucoup d'affection et d'humilité également pour qu'il puisse porter du fruit pour la gloire de Dieu. Voilà, nous voulons continuer ce temps qui peut-être a été pour vous une surprise ce matin, en voyant Jonathan. Nous sommes tous appelés des prédicateurs, quel que soit notre âge, et quel que soit le début que nous voulons avoir ou que nous ayons. Oui, c'est vrai, nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant. Ensemble, nous nous engageons dans ce qu'on peut appeler, on a appelé la mission Caleb, et bien d'autres encore, projet d'église. Sommes-nous réellement prêts à relever ce défi? Sommes-nous suffisamment ou sommes-nous unis pour faire cela? Le psaume 133 qui a été lu par Brigitte nous invite à une réflexion qui continue sur ce que Jonathan nous a présenté. Oh, voici qu'il est bon, qu'il est agréable. L'expression qui est donnée ici, c'est une merveille que l'on ne voit pas souvent. Écoutons, peut-être, elle a une caractéristique particulière. Des vrais saints, ceux qui ont la persévérance, ceux qui gardent le commandement de Dieu, qui ont la foi de Jésus. Texte d'Apocalypse 14, verset 12. Nous la voyons de près, elle est digne d'admiration. En l'observant, elle nous conduit à l'imiter. Et bien sûr, Dieu la voit favorablement. Personne ne peut dire à quel point cette condition est excellente. Aussi, le psalmiste s'exclame-t-il à deux reprises qu'il est bon, qu'il est agréable. Ah là là, de voir, d'observer. Il nous invite à admirer cela pour nous-mêmes. Tous les hommes aiment ce qui est agréable, n'est-ce pas? Et pourtant, il arrive souvent que ce qui est agréable soit mauvais. Mais ici, l'état évoqué est aussi bon qu'il est agréable, aussi agréable qu'il est bon. Et à la fin du verset premier de ce chapitre 133, il dit ceci, pour des frères de demeurer ensemble. Pour des frères, selon la chair, habiter ensemble, ce n'est pas toujours une bonne chose. Vous êtes placé comme moi pour le savoir. L'expérience nous montre en tout cas qu'il vaut mieux être chacun de son côté. Comme l'on dit dans ces cas-là, comment dit-on qu'on ne veut pas voir quelqu'un de près? Comment? Loin des yeux, près du cœur, c'est ça? Loin des yeux, près du cœur. Bien sûr. Il est honteux pour des telles personnes d'habiter ensemble dans la désunion, n'est-ce pas? Il vaudrait mieux pour eux d'être en paix, comme Abraham et Lot, que d'habiter ensemble dans la jalousie, dans l'hypocrisie, comme les frères de Joseph. Vous savez, quand des frères et sœurs peuvent habiter réellement ensemble, dans l'unité, alors leur communion vaut la peine d'être admirée, d'être chantée. Et de telles visions devaient être vues par ceux qui nous sont proches, car ils sont frères et sœurs, donc ils sont unis de même cœur, dans le même but. Ils passent du temps ensemble et c'est pour leur bien-être mutuel qu'il ne doit pas y avoir de conflit. Et autant que cela dépende de vous, autant que cela dépende de moi, sois en paix et soyez en paix avec tous. Et cependant, la réalité nous rattrape bien sûr. Combien de familles, combien d'individus se déchirent par de virulentes dissensions et montre un spectacle qui n'est ni bon ni agréable. Quant aux frères dans la foi, ils devraient habiter ensemble dans la communion ecclésiastique. C'est là un élément essentiel de cette communion qu'est l'unité. Nous pouvons nous dispenser de l'uniformité si nous avons l'unité. Nous pouvons nous dispenser de l'uniformité si nous sommes unis dans cette vie, de cette vie Nous pouvons nous dispenser de l'uniformité si l'unité de vérité nous conduit. Nous pouvons nous dispenser de l'uniformité si nous sommes unis en Jésus-Christ. Nous pouvons nous dispenser de l'uniformité si nous sommes unis dans cet objet de pensée. C'est cela que nous devons avoir. Ou bien nos assemblées, nos synagogues ressembleront à des lieux de dispute ou de voyeurisme en tout genre. Et ça, ce n'est pas l'Église du Christ. Comprenons bien que l'unité est étroite et c'est bien pour la communauté. Comme nous sommes des êtres imparfaits, dont je suis aussi le premier, je l'avoue bien, un peu de malentendu, de désagrément arrivera toujours. Mais nous savons que lorsque le mal s'introduit grâce à l'amour de Dieu qui règne en vous et qui règne en moi, nous arriverons rapidement à neutraliser cette affaire parce que nous sommes des vrais, des saints, ceux qui ont la foi de Jésus. L'unité chrétienne est bonne en elle-même. Bonne pour nous-mêmes, bonne pour les frères et sœurs, bonne pour nos nouveaux convertis qui bientôt rejoindront la communauté lors de cette cérémonie de baptême du 2 décembre. Bonne aussi pour le monde extérieur. Et certainement, elle est agréable, car un cœur aimant doit trouver son plaisir et donner du plaisir en étant associé avec d'autres de la même nature. Oui, une Église unie depuis des années dans le service actif pour le Seigneur est un puits de bienfaits, de joie pour tous ceux qui demeurent autour d'elle, n'est-ce pas? En effet, comme l'huile précieuse, la meilleure qui existe, qui est répandue sur la tête. Et ici, nous allons imaginer un peu ce tableau, ce qu'elle peut représenter. Cette huile est l'image même de l'unitableau, ce qu'elle peut représenter. Cette huile est l'image même de l'unité qui devrait régner entre nous, entre frères et sœurs. David nous donne une image, un peu comme un miroir, afin de percevoir ses bienfaits. Cette unité dégage un doux parfum, comparable à l'huile précieuse avec laquelle le grand souverain sacrificateur était oint lors de son ordination. Cette unité est sainte, comme l'était l'huile de consécration qui était réservé au seul service du Seigneur. Cette unité, elle est communicative. Répandue sur la tête d'Aaron, l'huile odorante coulait le long de ses vêtements, jusqu'à ce qu'il soit oint. Il en est de même pour l'amour fraternel. L'amour fraternel étant son influence bénéfique et bénit tous ceux qui sont sous son influence. L'union des cœurs amène une bénédiction sur tous ceux qui sont concernés. Sa beauté, sa bonté et son agrément sont partagés par les membres les plus humbles de la maison, de la communauté. Nous savons que cette huile était réservée à un usage spécial, bien sûr. Nous savons que cette huile était réservée à un usage spécial, bien sûr. Étant oint, Aaron était mis à part pour le service de l'Éternel. De même, ceux qui demeurent dans l'amour sont les mieux à même de glorifier Dieu dans son Église. Il est peu probable que le Seigneur utilise pour sa gloire ceux qui sont dépourvus d'amour. Il leur manque l'onction nécessaire pour faire d'eux des sacrificateurs pour le Seigneur. C'est le point clé de cette comparaison. L'huile ne reste pas confinée à la place où elle était répandue, mais elle s'écoule sur la chevelure du grand prêtre et inonde sa barbe. Tout comme l'amour fraternel descend sur la barbe du grand prêtre. Il distille en coulant un parfum sur tout ce qu'il illumine. Celui-ci allait jusqu'au bas de ses vêtements. Une fois répandue, cette huile ne cessait de couler. Il en est ainsi, chers amis, de l'amour fraternel. Non seulement coule des cœurs sur ceux qu'il a été premièrement répandu, mais il se répand là où il n'était pas recherché, peut-être même pas demandé, ni autorisation, ni permission pour frayer son chemin. L'affection chrétienne ne connaît aucune limite, pas de paroisse, ni de nation, encore moins d'âge. L'amour fraternel vient de la tête, mais va jusqu'aux pieds et se dirige vers le bas. L'amour fraternel, l'amour pour les frères, s'abaisse jusqu'au rang le plus humble. Il n'est pas orgueilleux, mais il est humble, de même que l'huile ne moindrait pas si elle ne coulait pas. Il en était ainsi de l'amour. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, nous dit le texte. De même, l'amour fraternel descend du plus haut vers le plus bas, rafraîchissant et vivifiant tout sur son passage. Là, en Sion, mieux encore, à l'endroit où l'amour fraternel abonde, là où l'amour règne, Dieu règne. Là où l'amour veut bénir, Dieu commande la bénédiction. Dieu n'a qu'à commander et c'est fait. Il est tellement heureux de nous voir, nous, ses enfants bien-aimés, trouver le bonheur l'un dans l'autre, qu'il ne peut pas manquer de nous bénir et de nous rendre heureux. La plus grande de ces bénédictions, la vie éternelle, car l'amour, c'est la vie. En demeurant ainsi dans l'amour, c'est déjà goûter les joies de l'éternité et cela ne nous sera pas retiré. Aimons-nous pour l'éternité et nous vivrons pour l'éternité. Voilà ce qui rend la communauté chrétienne si bonne, si agréable. Sur elle repose la bénédiction de Jéhovah et rien ne peut être plus sacré que l'huile précieuse. Oui, mes amis, plaidons qu'il y ait davantage de cette vertu rare. Plaidons qu'il y ait davantage de cette vertu rare ici à Damary. Non, l'amour qui va et qui vient ne peut. Non, l'amour qui va et qui vient, mais l'amour qui demeure. Non, cet esprit qui sépare, qui isole, mais celui qui fait demeurer ensemble. Non. Cette pensée qui ne conduit qu'à des débats sur la différence ou sur l'indifférence, mais celle qui fait habiter ensemble dans l'unité. En arrivant ici, ainsi à la fin de cette réflexion, pour tous ceux qui nous visitent, chers amis, chers frères et sœurs, jamais nous ne connaîtrons toute la puissance de cette onction jusqu'à ce que nous soyons d'un cœur et d'une âme. Il est important que nous puissions comprendre que jamais la rosée sacrée de l'Esprit ne descendra dans sa plénitude jusqu'à ce que nous soyons parfaitement unis, ensemble, dans le même esprit. L'Église, c'est d'abord un individu, c'est moi, mais c'est aussi la communauté. Jamais les bénédictions de l'Alliance de Dieu que Dieu a commandé ne viendront du Seigneur, notre Dieu, jusqu'à ce que nous soyons unis. Il est important que ce matin, nous soyons unis dans cette foi, dans cette espérance, dans un seul baptême. Amen.